Marceau, le matin.
8h32 minutes.
Marceau, le matin.
À tous, un excellent mercredi. On a du soleil une bonne partie de la journée. Peut-être 30% de probabilité d'averse cet après-midi. Ça pourrait passer dans le beurre. Ça ferait du bien. Maximum de 21. Ce soir, cette nuit, des nuages avec un minimum de 8 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, jour de paye pour certains. Généralement, nuageux avec 40% de probabilité d'averse. Maximum de 13 degrés. Et vendredi, pour terminer la semaine, ce sera nuageux avec un 40% de probabilité d'averse. Maximum de 15.
Autre matin compliqué dans le secteur des ponts, particulièrement quand arrive par la 20 ouest ou à partir de Chemin des Îles, c'est au gros ralenti. 40 est entre Duplessis et Henri IV, c'est au rouge. Capitale ouest entre Lormière et Bourassa au ralenti. Capitale ouest toujours dans le gros de l'heure de pointe entre Seigneurial et Laurentienne.
All right. On parle beaucoup de référendums ces temps-ci, de un avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui a juré faire un référendum dans son premier mandat, advenant le cas où il est élu. Donc, si c'était le cas demain, donc on ira en référendum d'ici 4 ans. Puis en Alberta aussi, on parle de plus en plus de référendums. Et Mark Carney, le premier ministre du Canada, qui a sorti une phrase quand même assez particulière hier, une majorité de 50% plus 1 ne serait pas, selon lui, absolument suffisante pour déclencher une démarche vers la souveraineté d'une province, que ce soit l'Alberta ou encore que ce soit le Québec. Ça a fait bondir plusieurs personnes. On a le plaisir de jaser avec Christine Normandin, qui est leader parlementaire pour le Bloc québécois. Madame Normandin, bon matin, merci d'être là.
Ça fait plaisir, joyeux mercredi.
C'est-tu quelque chose auquel vous vous attendiez à ce que Mark Carney sorte de cette façon-là concernant les référendums, puis justement le poids du 50% plus 1?
Bien, c'est un petit peu surprenant qu'il fait un Stéphane Dion de lui-même aussi rapidement là, dans la partie, mais qu'il sorte sur le 50% plus 1 en disant « ce n'est pas suffisant ». Nous, on voit surtout ça comme une espèce de d'attaque à la démocratie. Le 50% plus 1, c'est la règle qui s'applique partout, puis il devrait le savoir. Là, il est devenu majoritaire en Chambre par une voix de plus. Il sait que pour passer un projet de loi, c'est 50% plus 1. Même sa secrétaire parlementaire à la justice l'a redit en Chambre. Une majorité, c'est 50% plus 1. Donc, c'est surprenant, oui et non. Aberrant, ça, absolument, par contre. Là, c'est surtout pas à lui à s'en mêler. Ça, c'est ce qu'on martèle comme message depuis le début. Il n'y a pas de raison que Papa Ottawa vienne dire à qui que ce soit comment penser, c'est quoi une majorité claire et surtout c'est quoi une question claire, parce que ça c'est l'autre enjeu sur lequel il a décidé de se prononcer dans les derniers jours.
Et ce serait quoi une bonne question claire pour un référendum, parce qu'autant au Québec en 1995 que là en Alberta avec la consultation qu'on veut faire, la question demeure toujours très problématique, très longue, très floue.
La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est que c'est pas à moi à trancher sur qu'est-ce que c'est la question que les Albertains devraient se faire poser.
Mais au
c'est
Québec?
Au Québec, même chose. À ce moment-là, même chose, d'une certaine façon, n'étant pas une élue à l'Assemblée nationale, et c'est eux qui vont en décider, comme élue sur un autre palier de gouvernement, c'est pas à moi non plus à décider quelle est la question. Mais je pense que dans tous les cas, c'est peut-être prendre un peu la population pour des abrutis que de dire « Ah, ben la question n'est pas assez claire, vous ne la comprenez pas ». Ultimement, tout le monde sait exactement pourquoi il vote, sur quel sujet il se positionne.
Ouais, mais on jase, là. Voulez-vous séparer le Québec du Canada, oui ou non? Il me semble que c'est simple.
Ça aurait été simple. Puis, tu sais, pour une personne âgée de 85 ans, c'est assez clair. Une personne âgée de 100 ans, c'est assez clair aussi.
Pour un jeune de 18 qui vote pour la première fois aussi.
Puis encore une fois, sans vouloir vous contredire, je pense que c'est un peu prendre la population pour des valises que de dire ben la question est trop compliquée pour qu'ils la comprennent. Faudrait qu'on la revoie parce qu'ultimement ils savent pas sur quoi ils votent. Dans un référendum sur l'indépendance du Québec, peu importe comment elle est libellée la question, on sait exactement de quoi il en retourne. Puis ça, il y aura tellement de toute façon de battage médiatique autour d'un référendum. Il y aura des débats. On va en parler dans les cafés, dans les salons, dans les universités. Tout le monde va savoir exactement de quoi il en retourne et probablement même encore plus que le simple contenu de la question. On aura fait ces débats-là sur ce que ça implique. Et je serais bien surprise que quelqu'un, tout d'un coup, se ramasse dans l'isoloir, lise la question, se dise « Oh mon Dieu, mais là, je savais pas que c'était ça qu'on allait me demander. » Puis « Oh, faudrait que je réfléchisse à nouveau. » Ce serait assez étonnant. Puis encore une fois, c'est un peu prendre la population pour des imbéciles.
Ouais, non, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi quand même sur la question, toujours y aller de, puis là, je reprends l'exemple de 1995, je l'ai pas devant moi, mais après des négociations avec le Canada, est-ce que c'est vraiment pour tenter d'amoindrir le fait de se séparer du Canada?
Des fois, parce qu'il y a des aspects plus techniques sur le dossier. C'est un peu le cas en Alberta avec les décisions de la Cour. Donc, je peux, et ça leur appartient, la façon dont ils décident, avec laquelle ils décident de procéder, la façon dont le libellé est rédigé. Puis les considérations, ben, c'est eux qui les analysent, c'est eux qui décident comment ils les utilisent. Ben, c'est ça, encore une fois, personne va se douter qu'il ne vote pas sur la bonne affaire en lisant la question, puis qu'elle soit considérée claire ou non par le gouvernement fédéral. Ça devrait même pas être une question qu'on se pose. La loi sur la clarté, c'est une aberration en partant, c'est antidémocratique. C'est prendre un peu la population pour des imbéciles. Le gouvernement fédéral ne devrait pas du tout avoir à s'en mêler. Mark Carney, comme Albertin, qu'il aille voter, mais comme chef de d'État, il n'y a certainement pas à dire à un autre gouvernement comment procéder et ni à la population comment penser et s'ils sont assez intelligents pour comprendre la question.
Mark Carney n'est pas vu comme étant un extrémiste de l'environnement. Là. Il semble être assez dosé pour ce qui est de l'environnement, puis moi, ça me convient très bien. Il a signé une entente avec l'Alberta en vue de faciliter la construction d'un nouvel oléoduc vers la Colombie-Britannique dès l'année prochaine. Ça a fait en sorte que Stephen Guilbeault a dit bah, « Pour moi, c'est le temps de partir. J'ai pratiquement aucun impact au sein de mon gouvernement. Donc, je vais quitter en tant que ministre, je vais rester en tant que député le temps que tout se tasse. La position du Bloc québécois par rapport justement à ce type d'entente-là entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, c'est quoi? Puis en même temps, es-tu au Bloc québécois de se mêler de ce type d'entente-là?
Bien, dans la mesure où les changements climatiques ultimement affectent tout le monde et dans la mesure aussi où il y a une partie du financement pour ces grands projets-là qui vient directement de la poche des contribuables québécois à la hauteur d'à peu près, généralement autour de 20 % de ces projets-là, bien oui, ça nous concerne parce que c'est nos contribuables, c'est les contribuables québécois qui paient de leur poche pour en plus subir les conséquences négatives des changements climatiques dans un contexte où on s'attend à ce que d'ici 2030, il y ait un plafonnement de la consommation de pétrole. C'est tellement pas intéressant que les entreprises privées à date sont même pas sur le terrain pour dire oui, nous, on souhaiterait investir dans ce genre de projet-là. Ça nous semble être quelque chose qui est complètement inintéressant, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Donc, dans ce contexte-là, oui, on considère qu'on a amplement une voix à faire valoir là-dessus. Et nous, on est conséquents avec nos valeurs aussi. On a toujours été en défaveur d'investir dans des énergies qu'on considère des énergies du passé, d'investir de l'argent public, de développer le pétrole. On devrait davantage investir dans des technologies vertes. Mais pour ce qui est de M. Guilbeault, je le comprends aussi parce que probablement, comme plusieurs autres dans son parti, il a été déçu. Parce qu'il faut se rappeler, Mark Carney, vous le présentez comme quelqu'un qui va ensemble trancher la poire en deux sur les questions environnementales, de développement et tout.
Moi, je déteste les extrémistes. Je déteste les gens qui nous appellent constamment au chaos au niveau de l'environnement. On fait tous notre part. On fait tous de notre mieux pour ce qui est de la récupération, pour l'environnement. On essaye, pour la plupart, avec un fort pourcentage, de se ramasser, de ne pas laisser de traces de nous quand on se promène dans la forêt. On regarde les autres pays, puis c'est pas les sujets là, qui sont priorisés, là, la fin de l'exploitation du pétrole. On le sait qu'il va falloir faire la transition, mais on ne peut pas la faire demain matin. Puis tout ce qui nous entoure est amené par du pétrole, madame, en tout respect. Là, on se parle avec des trucs qui contiennent du pétrole aussi. C'est pas demain matin que ça va être terminé, le pétrole. Puis là, ben, le Canada, on est déficitaire par-dessus déficit pendant des années et des années. Puis ça va être le cas encore en 2030. Moi, je pense à mes enfants, là, puis je me dis quel avenir qu'on leur laisse en prenant des décisions extrêmes. Je pense pas que ce soit la meilleure des façons d'agir.
Il y a beaucoup dans ces questions-là. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut fermer le robinet partout où il y en a. Là. Je suis en train de vous dire que ça sert à rien de mettre 30-40 milliards supplémentaires pour construire un oléoduc de plus qui va servir juste à vendre du pétrole à l'étranger pour le bénéfice, par ailleurs, de compagnies américaines et étrangères. Parce qu'à 80 % des entreprises qui exploitent le pétrole dans les prairies, elles sont internationales. À 60 % elles sont américaines. Et quand on dit qu'il faut devenir souverain face aux États-Unis en matière de consommation d'essence, bien, quand on finance un oléoduc, finalement, on met de l'argent dans les poches des Américains.
Oui, mais on s'en met aussi par le fait même. Ça nous aide à exporter notre pétrole.
Certainement pas au Québec, parce qu'on va avoir payé par l'argent des contribuables pour financer la création de ces oléoducs-là. Mais pour revenir à M. Carney,
les péréquations dont on dépend, là, ça vient de où? L'argent des péréquations dont on dépend depuis trop d'années au Québec. Puis j'aimerais bien ça que le balancier soit renversé. Mais l'argent vient de où?
On peut en parler pendant une heure.
Oui, mais oui.
L'argent vient de où? C'est à peu près 20 milliards en tout qui est mis en péréquation dans le Canada. Là-dessus, il y a une partie qui vient du Québec.
Combien?
À peu près 20 % 4 milliards qu'on met dans la cagnotte. On en retire 13 milliards. Le différentiel entre les deux, c'est à peu près 9 milliards, donc on reçoit net. Et ça, on peut facilement l'éliminer d'une façon simple, en dédoublement, si on devient indépendant. Donc, juste ça, et en faisant des choix différents aussi. Le fédéral met de l'argent, notamment par le biais de crédits d'impôt qui n'apparaissent pas dans la comptabilité. Pour les pétrolières, c'est au-dessus de 30 milliards par année. On contribue à ça. Bien, si on ne le faisait pas, déjà, on réduirait le montant qui pourrait nous revenir en matière de péréquation, des dépenses inutiles comme la gouvernance générale avec une couple de centaines de millions, des dédoublements de ministères dont on n'a pas besoin. Et on pourrait parler de ça pendant des heures.
On comprend tout ça, mais cet argent-là, globalement, vient d'où dans la péréquation? Elle vient de l'industrie du pétrole, on ne se le cachera pas. Là. L'Alberta nous fait vivre depuis trop d'années. Là.
Et contribue à gonfler le dollar dans certains cas. On l'a vu par le passé, le mal hollandais qui a fait extrêmement mal à l'industrie manufacturière du Québec. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'avantages pour le Québec spécifiquement, parce que c'est ça que, comme question que vous me posez. Quel avantage pour le Québec dans l'industrie pétrolière? Absolument aucune. On va juste subir les contre-coups climatiques qui viennent avec un prix aussi. Et je me permets rapidement de revenir à M. Carney, dont vous disiez c'est pas un extrémiste. C'était quand même l'envoyé de l'ONU pour le financement de l'action climatique. Donc, il a reviré son fusil d'épaule complètement.
Bon point.
Et je peux comprendre à ce moment-là qu'il y a beaucoup de déception au sein de son parti, des gens qui espéraient qu'il soit encore le porteur de ce genre de dossier-là. Bien, finalement, il est en train de nous dire tout bas de l'environnement, ça ne nous intéresse plus du tout et on va envoyer de l'argent à la place dans les pétrolières aux frais des contribuables pour polluer davantage, augmenter les changements climatiques qui viennent avec un coût et tant pis pour cet argent-là qu'on ne déploiera pas à l'intérêt, entre autres, du Québec pour financer le développement de technologies vertes. Donc, il n'y a absolument rien de positif là-dedans pour le Québec. Et je peux comprendre dans ce contexte-là la déception de M. Guilbeault et de plusieurs autres au sein du Parti libéral.
Madame Normandin, vous n'aurez pas le choix de venir en studio là, où on pourrait jaser pendant au moins une demi-heure et on ne manquerait pas de sujet. Salutations à toute la petite famille. Je trouve ça cute de les entendre en arrière.
Oui, lui aussi, il a une opinion, il
l'a
fait valoir.
Ben oui, il retient de sa mère.
Et voilà.
Salut, bye-bye. Christine Normandin, qui est leader parlementaire pour le Bloc québécois.